VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Le président français François Hollande fait état de l'arrestation d'un suspect suite à ce qu'il a qualifié d'attaque terroriste aujourd'hui dans une usine près de Lyon. De Bruxelles, où il participait à un sommet européen, il a évoqué un possible deuxième auteur dans cet attentat qui a fait un mort par décapitation et deux blessés légers. Selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, l'auteur présumé de l'attentat, un certain Yacine Sali, avait été fiché par les services de renseignement entre 2006 et 2008 pour radicalisation. L'Allemagne et l'Espagne ont condamné l'attentat, fustigeant une haine aveugle et s'affirmant unie contre la barbarie. En Tunisie, au moins 7 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une attaque contre 2 hôtels à Sousse, ville touristique du centre-est du pays, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Ali Araoui, qui s'est exprimé sur la radio Mosaïque. La télévision nationale avait auparavant annoncé que des tirs avaient éclaté sur une plage devant un hôtel de la zone touristique de Sousse, faisant un nombre indéterminé de morts. Sur le continent, toujours au Burundi, plus d'une centaine d'étudiants ont cherché refuge dans le parking de l'ambassade américaine à Bujumbura pour échapper aux violences dans la capitale. Toute l'opposition burundaise a maintenant décidé de boycotter les prochaines élections. Et le deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufikiri, continue d'exhorter le président Pierre Nkurunziza à ne pas briguer un troisième mandat en qualifiant cette candidature de contraire à la Constitution. Les explication de M. Rufikiri au micro de Timothée Donangmaï.
Il suffit de lire l'article 96 et de combiner avec l'article 302. On se rend compte qu'effectivement la Constitution limite le nombre de mandats à 2. Et c'est une interprétation qui a même été faite par des experts juristes constitutionnalistes, tels que le professeur Philippe Renger, mais aussi les procureurs généraux de la communauté africaine. Ils se sont exprimés là-dessus et parlent justement que la Constitution à elle seule suffit pour montrer que le nombre de mandats ne peut pas dépasser 2.
Qu'est-ce que votre départ changera au Burundi selon vous?
Bon, écoutez, je crois que c'est une contribution par rapport aux nombreux Burundais qui sont en train de se battre pour protéger la Constitution burundaise, pour respect de la Constitution burundaise.
Au niveau du gouvernement, on a rejeté toute idée de reporter les législatives qui se tiennent dans quelques jours. Qu'est-ce que cela aura comme conséquence selon vous?
Bon, les conséquences sont très lourdes. D'abord, pour le moment, vous vous rendez compte avec le nombre de réfugiés dans les pays voisins, mais aussi plus loin dans d'autres pays, et avec des décès dans ces camps d'accueil des réfugiés, puisque les conditions ne sont pas optimales pour la vie. Les morts qu'on a revues chaque jour au Burundi, soit trop de manifestations, mais maintenant, ça a pris notre forme avec les grenades qui sont lancées, soit sur des ménages ou dans des attroupements de personnes. Ça, ce sont quelques signes de dégâts, sans oublier bien sûr l'isolement du Burundi par rapport à ses partenaires techniques et financiers. Et on peut se demander la question, comment sera l'économie burundaise sans apport extérieur, lorsqu'on sait que l'économie burundaise vit à plus de 52% dans des conditions normales des appuis extérieurs et que les recettes collectées par l'Office burundais des recettes sont en train de chuter. On peut se demander quel est l'intérêt de chercher à tout prix d'être président lorsque tu n'auras pas de quoi nourrir ton peuple. Ça, c'est la première question que n'importe qui devait se poser. Donc, pour le moment, l'urgence, normalement, n'est pas de courir derrière son poste présidentiel, c'est plutôt de stabiliser davantage le pays et créer de bonnes conditions pour tenir des élections conformes à la démocratie, donc des élections libres, transparentes, inclusives et qui se passent dans un climat de paix et de sécurité pour tous.
Le deuxième vice-président du Burundi, Gervais Rufikiri, joint à Bruxelles par Timothée Donangmaï. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé ce vendredi les autorités burundaises à reporter les élections prévues à partir de lundi en raison du climat politique et sécuritaire qui règne dans le pays. M. Ban Ki-moon a notamment demandé aux autorités de prendre sérieusement en considération la proposition de l'équipe internationale de la facilitation de reporter les élections afin de créer un environnement propice à la tenue d'élections inclusives, pacifiques et transparente, a indiqué son porte-parole dans un communiqué. Au Gabon, les enseignants du primaire et du secondaire sont en grève depuis mardi et leurs collègues de l'enseignement supérieur s'apprêtent à débrayer lundi prochain. Pourquoi cette vague de contestation? La réponse de Jean-Rémy Yama, il est le président du syndicat national des enseignants et chercheurs.
À l'éducation nationale, une grève a été décrétée de 3 jours, soit 12 heures, pour 3 motifs principaux. Le premier, c'est la rétention des bons de caisse de certains enseignants en violation des textes. Le deuxième point, c'est le non-paiement de la prime d'incitation à la performance. Le troisième point, c'est le paiement de la prime incitative à la fonction d'enseignant, donc la PIF. Aux dernières nouvelles, les deux derniers éléments auraient été satisfaits, mais il reste l'épineux problème de la rétention, de la séquestration des bons de caisse de certains enseignants. Ils sont 200 exactement qui ont été ciblés. À cela également, on vient de constater qu'à la fin de ce mois, c'est-à-dire, vous savez, les salaires sont payés le 25 de chaque mois au Gabon, les mêmes enseignants ont vu leur salaire suspendu.
Jean-Rémy Yama, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon en Côte d'Ivoire. 19 ONG exhortent le président Ouattara à maintenir ouvertes les enquêtes relatives à la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts. Les ONG souhaitent que les juges puissent aller jusqu'au bout de leurs investigations. Michel Joseph.
VOA Afrique en direct de Washington. Président Ouattara. Ces ONG, notamment la Fédération internationale des droits de l'homme et Human Rights Watch, expriment leur vive préoccupation quant aux informations concordantes, faisant état de la clôture imminente des enquêtes judiciaires en cours. Elles disent redouter une clôture prématurée de ces instructions, qui aurait pour conséquence certains des procès mal préparés et des accusations insuffisamment étayées ne permettraient pas de rendre justice aux victimes. D'après un communiqué de presse des ONG, le gouvernement ivoirien a demandé à la cellule spéciale chargée des enquêtes de terminer rapidement son travail d'ici le 30 juin 2015. Pour ces organisations, il ne faudrait pas que des considérations politiques, notamment électorales, dictent la cadence judiciaire au détriment des victimes qui ne pourraient se satisfaire de procès précipités. Une allusion à la présidentielle prévue en octobre. La crise ivoirienne de 2010 à 2011 a fait plus de 3000 morts. Parmi les personnes jugées en rapport avec ces violences, l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui a été condamnée à 20 ans de prison en mars.
Au Bénin, les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour choisir leurs représentants dans les conseils communaux et locaux. Des précisions avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
La bataille pour les municipales, communales et locales béninoises égrène ses dernières heures. Et les différents partis politiques et alliances de partis politiques en compétition dans chacune des 77 communes que compte le Bénin usent d'arguments pour convaincre les électeurs à leur accorder dimanche prochain leur suffrage. La bataille se promet d'être rude dimanche prochain à Cotonou. Et dans les autres communes du Bénin. Peggy, Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Au Niger, sécheresse et insécurité alimentaire sont intimement liés, d'où la décision de la jeune franco-américaine Ariane Curtley de consacrer toutes ses énergies à apporter de l'eau aux populations qui en manquent le plus dans ce pays aride du Sahel à travers son ONG Amam Inman, qui signifie « L'eau, c'est la vie » en tamashek. De passage à Washington pour promouvoir son ONG, Ariane Curtley a parlé de l'importance de l'eau dans les régions qui souffrent particulièrement du réchauffement climatique. Elle est au micro de Claire Morin-Gibourg.
On a apporté de l'eau à peu près à 100 000 personnes, mais il y a à peu près 500 000 personnes dans cette zone. Donc on veut vraiment continuer à creuser des forages, amener tous les projets qui viennent autour des forages et continuer à amener un dialogue de paix dans cette zone jusqu'à ce que, je sais beaucoup dire, mais est-ce que toute la zone ait vraiment un accès à l'eau. Et on veut travailler dans le temps, parce que c'est pas juste en amenant un forage que le forage va durer dans le temps si on continue pas à faire les activités. Donc peut-être continuer pendant 20 ans, je ne sais pas. Mais on espère aussi travailler avec d'autres populations d'Afrique qui sont aussi très vulnérables.
On parle beaucoup de l'influence du climat aujourd'hui, évidemment du changement climatique, du réchauffement de la planète. Est-ce que vous avez constaté une aggravation de la situation pour ces populations au cœur d'une zone déjà très aride?
Tout à fait. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que c'est le changement climatique global. Mais ce qu'on va dire, c'est que si il y a 15 ans, ces populations vivaient de mares qui se formaient à partir de pluies qui pleuvait 5 mois de l'année. En 2005, il pleuvait à peu près 3 mois de l'année. Et là, il ne pleut même pas un mois de l'année. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que ces personnes n'ont plus d'eau. C'était la meilleure zone de pâturage dans toute l'Afrique de l'Ouest, cette zone. Une famille pouvait avoir 300 têtes de bétail. Mais non, ils n'ont plus rien. Eux-mêmes, ils n'ont plus rien. Il n'y a pas d'eau. à d'autres, enfin l'agriculture, donc pour remplacer le bétail. Donc effectivement, je pense que ça doit être une des populations au monde qui doit souffrir le plus de changement climatique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.